Bonjour, nous sommes le lundi 3 juin, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste,
pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Bah, je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
La relève, c'est tous les 15 jours, 30 minutes pour rencontrer les talents d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on parle photographie et art pariétal, chambre noire et grotte, avec l'homme qui a vu les lions. Raphaël Delaporta, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous avoir enfin dans ce studio. On se court l'un après l'autre depuis un certain temps. Enfin, c'est surtout moi qui cours après vous. Vous avez fait l'hiver dernier une exposition remarquée au 104, enfin une exposition, une installation même au 104, autour de la grotte Chauvet. Entre-temps, vous avez eu le prix NIPS. On dit NIPS, NIEPS,
NIEPS, NIEPS, ouais,
Jean d'Image, fort, ouais. Prix qui récompense un photographe professionnel. Est-ce que c'est la façon dont vous vous définissez photographe professionnel ?
Oui, effectivement, moi je me suis toujours considéré comme photographe, même si ma pratique est étendue, mais c'est ce que doit être la photographie. Ouais.
Mais c'est une photographie qui n'est pas classique, vous ne faites pas du portrait que de la petite photo qu'on va voir dans un cadre. Si aussi, vous faites ?
Non, mais la photographie, ce n'est pas que du portrait, c'est pas que...
Du paysage.
Ça peut être vivant, c'est surtout un moyen de s'exprimer. Et effectivement, ce n'est pas forcément une petite lumière orange sur un petit cadre avec une Marie-Louise. Ça peut prendre plein de formes variées et le public est plutôt réceptif à ça. C'est, voilà, l'édition aussi est une très bonne façon d'utiliser ce langage et j'aime beaucoup l'édition pour m'exprimer. Ouais.
Alors, au 104, votre exposition, votre installation s'appelait, avait un titre magnifique, « L'inappropriable ». Ça veut dire que vous ne pouviez pas vous approprier la grotte Chauvet ?
En fait, l'initiative de cet accès à cette grotte qui a été découverte en 1994 mais qui est fermée venait d'un concours. En fait, on ne peut pas rentrer dans la grotte Chauvet juste par bon vouloir. Et j'ai été lauréat.
Ne remuez pas le couteau dans la plaie, je suis jaloux de vous à cause de ça.
Ah non, mais j'ai énormément de jalousie, d'ennemis, tout ce que vous voulez, depuis que j'ai eu ce privilège, et c'en est vraiment un. Mais j'ai choisi ce titre, l'inappropriable, parce qu'en fait, c'était ce qu'on m'offrait, c'était de s'approprier cette grotte en quelques heures. Et j'ai pris, par esprit de contradiction, que j'aime cultiver ce titre. Ouais.
C'est peut-être aussi parce qu'on ne peut pas se l'approprier, même par la photo. J'ai beau avoir vu l'installation et la réplique de la grotte, mm-hmm. Il n'empêche qu'on ne peut pas rendre... Moi, j'avais pensé que c'était ça que vous vouliez dire, qu'on ne pouvait pas rendre ce qu'on avait vu, finalement.
C'est ça, c'est aussi, un jeu de mots, mais on dit la grotte Chauvet en référence à son inventeur, qui n'est pas le créateur, qui est celui qui la découvre. En préhistoire comme en archéologie, on dit l'inventeur. Et donc la grotte s'appelle Chauvet, lui s'est approprié quelque part cette grotte, en tout cas lui a donné la paternité. Et moi, en mettant mon nom sur un projet qui y faisait référence, bah, je préférais montrer qu'on ne pouvait absolument pas
se l'approprier.
Absolument.
Nous arrivons à la salle du cactus.
Et c'est en passant à proximité ici qu'Eliott a pu observer ces deux premiers tracés qu'on voit juste là, ces deux tracés digités et qui sont les premiers tracés qu'ils ont observés.
Et il faut dire que dans les premiers instants, on s'en est pas rendu compte, tout occupé qu'on était à notre cheminement d'ailleurs. Et c'est Eliott qui a aperçu deux petits traits à l'ocre rouge et qui s'est écrié « Ils sont venus ».
Oui, ils sont venus. Et ça, ça résonne encore dans l'immensité. Ça, c'est comme la goutte d'eau qui tombe. Vous êtes tellement absorbé par les grands volumes. Il y a tellement un silence religieux parce que vous avez une peur intérieure, puisque vous êtes dans quelque chose que vous découvrez et vous ne savez pas où vous allez. Il y a la peur. Il y a la peur que ça s'arrête. Et d'un autre côté, il y a la peur d'avancer.
Chacun essaie de dire quelque chose, mais c'est plus des onomatopées que des véritables paroles.
À partir de là, tout s'enchaîne. Et en plus, les concrétions qui étaient d'une blancheur immaculée, pour nous, c'était la totale.
Alors, Raphaël Delaporta, on vient d'écouter un extrait de « Ils sont venus », un documentaire que l'on doit à Farid Haroud, Pierre Lachaud, Nicolas Ferraud et Loïc Favel. Et on a entendu dans l'ordre Christian Allaire et Jean-Marie Chauvet, dont vous venez de nous parler, qui est l'inventeur de cette grotte. Alors, on va peut-être rappeler ce qu'est cette grotte Chauvet.
La grotte Chauvet, elle a été effectivement découverte en 1994.
Et
les premières datations, en fait, on fait apparaître qu'elle datait de l'Aurignacien, donc il y a moins 36 000 ans, ce qui a été une révolution pour l'humanité, en fait.
Parce qu'à l'intérieur, je crois que j'ai oublié de dire l'essentiel, à l'intérieur, il y a un ensemble d'art pariétal, oui. Donc de traces laissées, enfin d'art vraiment, de dessins, de peintures, laissées par des hommes qui vivaient donc il y a peut-être 36 000 années.
Oui, c'est une grotte ornée, donc effectivement, elle n'a pas que le géologique qui lui est bien plus ancien. Si ces grottes existent, c'est par leur interaction avec l'extérieur. Elle a vécu géologiquement, beaucoup d'animaux l'ont habité, et l'être humain y a laissé des empreintes qui seraient les premières traces d'abstraction, les premières façons qu'a l'homme de symboliser le monde, de représenter essentiellement des animaux, un bestiaire très très varié, mais surtout, voilà, ce qui est troublant, c'est qu'elle a une fraîcheur, un état de conservation absolument hallucinant, c'est comme si ça avait été fait hier, et les datations nous repoussent deux fois plus loin que tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent, en art pariétal.
Comment vous y êtes retrouvé? Donc vous avez gagné ce concours, et puis alors un matin, on vient vous chercher, et vous allez...
On gagne le concours, on a un peu de temps pour se préparer. Avant qu'il y ait une période d'études scientifiques, on est autorisé, on pose des dates. Moi, j'ai calé cette semaine-là avec le calendrier avec une pleine lune, ce qui me permettait en plus de l'accès que j'avais le matin à la grotte pour 3 jours de suite, de faire aussi des vues de nuit du paysage environnant, du cirque d'Estre et du pont d'Arc. Et c'était une semaine fabuleuse où non seulement on va dans la grotte, mais le lendemain on y retourne. Puis le troisième jour on lui dit adieu, mais on y retourne quand même une troisième fois.
Vous vous rappelez de ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
Le sentiment est un sentiment que je ne connaissais pas jusqu'à présent, qui était un grand sentiment d'apaisement. Je me suis senti, en ce moment, plus d'être bien, pas du tout stressé par la pression que j'avais d'avoir, parce que j'avais vraiment envie de réaliser un ensemble d'images cohérentes. Mais toute cette pression que je pouvais avoir avant, une fois même en approchant la grotte, disparaissait parce que c'est la grotte qui décide ou non si on peut y faire des choses. Et pour moi, ça a été un sentiment très apaisant. Ouais.
Quand on écoutait là à l'instant les découvreurs, on a l'impression de quelque chose de presque métaphysique, de religieux dans ce qu'ils racontent. Vous, ça vous a pas frappé?
Ils sont
venus quand même, cette phrase est incroyable.
Déjà, ils osent parler dans la grotte, ce qui est troublant, parce qu'effectivement, ça ne pousse pas à la causerie, même si je suis très bavard. Là, je ne me souviens pas avoir échangé quoi que ce soit. On est effectivement très contemplatif, si on veut prendre un terme religieux. Mais après, on a tendance à assimiler tout ce qui est de l'ordre du passé à la religion immédiatement. Et moi, je me suis mis à imaginer des choses plus festives, on va dire, dans cette grotte. Je pense à des... Enfin, la religion peut être festive, hein, mais voilà. Vraiment,
des fêtes, des bacchanales, d'imaginer des...
Ouais, déjà de les imaginer rire. Les hommes préhistoriques, on les imagine tellement dans la survivance ou dans le rituel sacré qu'on oublie qu'ils peuvent rigoler et célébrer. Et ces images sont pas... C'est pas qu'elles soient drôles ou joyeuses, c'est qu'elles sont tellement sensibles qu'on peut imaginer des gens pleins d'émotions. Ouais.
Au moment où vous rentrez dans cette grotte, donc vous avez ce projet, vous allez avec un matériel, il faudrait qu'on raconte aussi comment se passait cette installation. C'était une projection sur un très grand écran qui était incurvé, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Donc vous, comment vous faites ces prises de vue-là? J'imagine qu'on n'y va pas avec un flash.
En fait, c'est surtout qu'on... Alors, j'avais plusieurs contraintes. J'avais déjà une contrainte de temps.
3 jours.
3 fois 2 heures.
Ah oui.
3 fois 2 heures et une grotte assez immense. Donc, des contraintes d'espace qui sont plutôt bénéfiques. Mais on a envie de... c'est pas seulement de tout voir, mais on a envie de voir déjà la grotte. Donc moi, je connais les problèmes de faire de la photographie, c'est que ça demande pas mal de concentration, de décision, de choix. Et tout ça, j'ai préféré les faire avant, ne pas avoir de décision à faire dans la grotte. Et j'ai pu travailler avec les équipes scientifiques, comme je fais toujours. Moi, toute mon œuvre est de collaboration. Donc là, j'ai pu échanger avec les géologues, les préhistoriens, et identifier avec eux des points de vue dans lesquels je ferai tourner une machine, un robot si vous préférez, un automate qui va faire des photos sur 360 degrés. Et à partir de là, j'aurai l'intégralité d'un point de vue au moins, on en a sélectionné une douzaine, j'ai pu en faire une dizaine tranquillement. Et les choix ne se faisaient pas sur place. Sur place, bah, je déroulais un protocole. Et en fait, j'ai réalisé une sorte de rituel avec deux amis qui m'ont assisté dans cette mise en place, qui était très facile, en fait, une fois qu'on l'avait bien répété.
C'est-à-dire que vous avez présenté des photos sur lesquelles vous avez choisi, vous avez fait comme une sorte de casting des endroits de la grotte que vous vouliez photographier?
Oui, le casting, je l'ai fait grâce au modèle 3D. Donc j'ai pu,
C'est la réplique de la grotte ou c'est encore autre chose?
C'est ce qui a permis la réplique, mais c'est des scans qui ont été faits. Donc je suis allé aussi visiter la réplique qui était en cours de finition, on va dire. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, oui, c'est le modèle 3D qui m'a permis de faire des mesures aussi, de vérifier... quelle mise au point j'allais pouvoir faire, parce que quand on fait des grands panoramas comme ça, il n'y a qu'une seule mise au point qui est réalisable. Vérifier mon éclairage aussi, puisqu'on est dans le noir absolu, donc il fallait tout éclairer.
Et j'imagine que l'éclairage est contraint, non ?
L'éclairage est contraint, oui, il ne faut pas faire... C'est contraint par le bon sens, c'est que on évite d'avoir des lumières qui pourraient... comme des ampoules qui pourraient exploser ou des flashs qui pourraient nous aveugler, vu qu'on est là pas très longtemps. Si on se prend un coup de flash dans le noir, on voit pas en général pendant 10 minutes, donc et on se met à marcher n'importe où. Or là, il faut rester sur la passerelle. Et donc j'ai privilégié un éclairage en panneaux de LED et qui m'ont offert, en fonction des points de vue que j'avais choisis, les lumières assez homogènes que j'ai pu après à nouveau... contrasté pour rendre compte du volume pour le livre et puis aussi pour l'installation.
C'est combien de temps de travail ? La préparation.
La préparation, presque 6 mois, oui.
Et après, parce qu'il y a un gros travail de post-production, on va peut-être expliquer. Donc, c'était une projection sur un très grand mur qui a eu lieu à Tokyo et à Paris, avec une musique qui allait avec.
Avant, il y a eu un livre que j'ai réalisé avec Xavier Barral et ses équipes.
Qui est Xavier Barral ?
Xavier Barral, c'est un éditeur qui nous a quittés cette année. Avec qui j'ai une grande complicité et qui a tout de suite
parti dans le projet.
Oui, qui est tout de suite parti dans le projet, parce qu'il avait des grands souvenirs et émotions de spéléologie. Il connaissait un peu ce que c'était que de se repérer dans le noir et de faire un livre où on allait déambuler comme ça dans le noir, quelque chose qui s'avait très très bien imprimé. C'était une expérience merveilleuse et c'est avec lui qu'on est parti aussi sur ce projet d'installation. Qu'on a d'abord fait pour le festival de kyotographie au Japon.
Et Kyoto, puis, pas Tokyo, comme j'ai dit par erreur, pardon.
Kyoto, oui, Kyoto. On avait l'annexe du musée de Kyoto et on avait un partenariat avec Sony qui, pour présenter les toutes premières images de l'humanité, nous a offert la toute dernière des technologies de dalles en LED. Donc on avait une installation en près de 12K, en fait, qui était vraiment très très belle et avec une très belle intensité lumineuse. Et en collaborant avec un compositeur japonais, réalisé cette installation qui offre un vrai temps pour penser ce que notre héritage qu'on a de cette humanité d'il y a 30 000 ans.
Pourquoi l'avoir photographié en noir et blanc ? Dans mon souvenir, c'est en noir et blanc. Peut-être que je me trompe.
Ouais. Non, c'est en noir et blanc. C'est vrai que j'ai des visiteurs qui ont vu des couleurs, ce qui est possible. Hein. Mais la prise de vue était en numérique. La séparation et l'assemblage, l'impression du livre et la restitution vidéo étaient à préserver le noir et blanc. Elle fait le choix du noir et blanc que j'avais fait dès le début, même à l'annonce pour le concours. Dans l'intention de créer quelque chose de vraiment intemporel. Quand on est dans le noir et qu'on éclaire, on apporte une lumière, une qualité de lumière qui offre une couleur. Et ces couleurs, il faut avoir un peu l'œil pour s'en rendre compte, mais ça vieillit très rapidement. On peut penser à des ouvrages, par exemple, de culinaire, de livres de cuisine, toutes les images vieillissent instantanément. C'est un peu l'équivalent pour les photos de grotte. La façon d'éclairer, la qualité de la lumière, en tout cas la température de couleur, marque vraiment une époque. Et je voulais un livre un peu intemporel. Je voulais mettre ces images, mettre toutes les choses au même niveau, les parois, les plafonds, les sols. Et pour ça, le choix du noir et blanc me paraissait plus propice pour mettre tout au même niveau de gris. Ouais.
says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. About in front of family, I try to call you from the party. It's full of punks and cannonballers. I need my girl. I need my girl. I'm under the gun again.
Parler photographie en noir et blanc, un clip en noir et blanc très beau qui accompagne cette chanson I Need My Girl, The National.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez toujours La Relève, la dame vient de vous le dire, nous sommes aujourd'hui avec Raphaël Dallaporta, vous êtes photographe, vous avez obtenu le prix Niepce Jean d'Image et vous êtes l'homme qui donc a photographié la grotte Chauvet. C'était une expérience j'imagine exceptionnelle, on en a peut-être pas tous les jours une comme ça dans sa vie. Est-ce que vous avez le blues?
Une
expérience comme ça, on n'en a pas tous les jours dans sa vie. Est-ce que vous avez le blues de ce moment-là? Est-ce que c'est...
J'ai compris, est-ce que vous avez une blues? Parce qu'en fait, il y a un des souvenirs qu'on peut garder de la grotte. Il n'y a rien qui sort de cette grotte, c'est cette blues, mais je ne l'ai pas gardé fétichisement. Mais le blues, non, au contraire, non. J'ai dit que c'était une expérience très apaisante et puis elle m'emporte encore. Et non, au contraire, c'est... c'est un petit peu regrettable de ne pas pouvoir y retourner dès qu'on a envie, mais il y a plein d'autres grottes ornées, il y a plein d'autres moyens de se ressourcer, ce que j'ai besoin de faire régulièrement. Et dans ces cas-là, bah, là, j'invite les gens à aller voir l'expo au Centre Pompidou. On a pour la première fois des objets du patrimoine mobilier qui est dans un contexte différent d'un musée d'archéologie, même si les musées d'archéologie comme celui de Saint-Germain-en-Laye, c'est un fabuleux lieu pour se ressourcer quand on a besoin. Voilà, de se...
Vous êtes vraiment passionné par la préhistoire, c'est l'aspéologie, les cavernes, c'est quelque chose qui vous intéresse depuis toujours?
Bah, ça m'a toujours questionné de savoir comment on avait commencé à faire de l'image et à se projeter dans ce langage-là, et vu que c'est ma pratique, donc c'est venu par ça, et puis depuis ça ne me quitte pas, et c'est vrai que j'ai besoin d'aller visiter des grottes. Alors il y en a beaucoup de fermées, mais il y en a beaucoup d'accessibles, et pas que des répliques, on peut aller en... Alors, il y a encore des choses accessibles en forêt de Fontainebleau, enfin il ne faut pas trop le dire, mais voilà, j'ai besoin d'aller voir ces choses-là. Ouais.
Vous rêvez encore parfois de Chauvet, ou jamais?
J'ai eu des très très belles visions, les nuits qui ont accompagné ces
visions,
ces sorties-là.
Les photographes ont des visions.
Oui, enfin des visions, c'est-à-dire des rêves très marquants. Et la dernière fois que je suis allé dans le Quercy, là oui, ça a duré une bonne semaine d'avoir des animaux qui hantent les rêves, et c'est fabuleux, ouais. C'est vraiment c'est les meilleures choses à retirer de ces expériences. Ouais.
Vous auriez aimé les photographier, ces animaux? Vous pouviez voyager dans le temps, imaginons, en tant qu'on y est, vous auriez aimé...
Vous voulez dire
aimé...
ceux qui ont disparu, le lion ou l'ours des cavernes? Oui, la relation que ces hommes avaient pour ces animaux est vraiment inspirante.
Pourquoi? Pour les gens qui n'ont jamais vu ces images, est-ce que vous pouvez...
Contrairement à toutes les images qu'on a d'animaux qui sont toujours dans des situations de prédation, là, dans ces grottes-là, on n'est pas du tout dans cette représentation. Ces animaux sont sereins, sont posés, sont dans une attitude digne, nous permettent de nous font grandir, quoi. Mais donc on a une vraie chance de vivre à nos époques, parce que on est dans l'époque où on découvre la préhistoire. C'est très récent. C'est que depuis la première grotte ornée, c'est 1901. Donc en fait, on est de savoir qu'en 1994, quand je l'ai appris, qu'on découvrait une nouvelle grotte, ça m'a fasciné.
Vous ne pensiez pas un jour que vous la verriez, celle-là?
Ah non, quand je suis allé voir, pas en avant-première, mais dès sa sortie, le film d'Herzog en 3D, je ne pensais pas que je pourrais y aller un jour. Mais voilà, donc c'est pour ça que... Quand ce concours a été lancé, j'ai tenté ma chance, comme j'aurais cherché le ticket d'or.
Ah oui, donc vous aviez quand même déjà un centre d'intérêt pour l'art pariétal, pour les cavernes, c'est pas un hasard. Comment ce projet s'inscrit justement dans ce que vous avez fait jusque-là?
Mon travail, lui, vient dans sa globalité questionner toujours l'idée de progrès dans les pratiques humaines. Alors j'ai commencé des collaborations avec des militaires, des démineurs, des médecins légistes, des archéologues, et le projet de la grotte Chauvet s'inscrit dans ce questionnement-là, parce que ça a été une vraie révolution pour au-delà de l'histoire de l'art, mais il n'y a plus de progrès pensable en art quand on voit la qualité plastique et la complexité du langage qui est déjà en place il y a 36 000 ans.
Vous, en ce moment, travaillez sur quoi?
Je travaille sur...
C'est ce que vous pouvez dire, si vous...
Oui, je travaille avec le milieu de l'astrophysique, pas mal, en continuité de toutes les collaborations que j'ai menées là, ces 15 dernières années. Et je me passionne pour une science qu'on appelle la gnomonique, qui est l'art de calculer, de concevoir des cadrans solaires.
Et c'est une science? Parce que on n'y connaît rien, on se dit que ça doit être facile à faire. Pas du tout.
C'est pas si compliqué, mais derrière, ça implique du rythme de la mécanique céleste qui, elle, nous emmène très très loin. Oui.
Vous vous rappelez de la première photo que vous avez prise?
Oui. J'ai eu la chance de la conserver, donc ça permet de régénérer facilement le souvenir.
On peut vous demander ce qu'il y avait dessus?
Des canards, oui, au bord d'un lac. J'avais 5 ans, donc c'est... Oui, c'est...
Et de la première que vous avez prise, vous avez jugé digne d'être exposée?
Oui.
Et pareil, je vais demander ce qu'il y avait dessus.
Il y avait des enfants qui s'échappaient d'une école avec un beau contre-jour, et puis ça... J'avais postulé à un prix avec cette image. Ouais.
Alors vous êtes passé par l'école des Gobelins. Vous avez assez vite exposé. Pour vous, ça a toujours été une évidence d'être photographe?
Ben, une évidence, pas du tout, parce que je savais même pas que c'était un métier pendant longtemps, même.
Vous n'êtes pas d'un milieu artistique, vous...
Pas
en tout cas, pas la
vraiment,
photo.
mais j'ai eu la chance de, oui, en tout cas qu'on me dise que c'était une possibilité, que ce n'était pas qu'une activité secondaire, qu'on pouvait espérer en vivre. C'est pas qu'on en vit bien, mais
c'est mais pas qu'une activité pour les repas de famille, quoi. C'était ça. C'est
non,
ça,
mais non,
très
ça,
souvent.
Ça, je ressentais bien que c'était autre chose en le pratiquant, mais par contre que ce soit, enfin, qu'on en vive. Enfin, même quand je voyais les expos de Doisneau ou autres qui m'ont beaucoup inspiré enfant, je pensais pas qu'ils vivaient de ça, quoi. Je pensais qu'ils faisaient ça. Je savais pas. Et donc quand je l'ai su,
Mais je vais faire ça.
Je vais faire ça. Oui.
Ça a l'air sympa comme métier. Quels étaient les photographes qui vous inspiraient alors? Vous venez de parler de Doisneau. C'était toute cette école. J'avais franchement pas pensé spontanément que cette photographie humaniste était celle qui vous inspirait.
Oui,
en tout cas, elle vous a nourri.
Parce qu'on leur a collé une étiquette d'humaniste et justement, c'est ce qui m'a beaucoup troublé dans leur écriture et le contexte dans lequel ça a été fait, juste après la Seconde Guerre mondiale, où on ne voulait pas entendre parler d'humaniste. Et puis moi, je crois pas à un monde plus humain qui serait meilleur. Je pense qu'il faut au contraire réduire l'empreinte des humains sur Terre, ce serait une bonne chose. Et je pense que c'était partagé par ceux à qui on a collé l'étiquette d'humaniste. Mais j'aimais leur spontanéité, leur poésie, leur façon de mettre les choses en scène aussi, leur grande
œil.
Sincérité avec ça et leur regard, mais surtout leur manière d'avoir une pratique finalement collaborative aussi, parce que Doisneau faisait de n'importe quel passant son complice et ça, je trouve ça merveilleux. Ouais.
Et d'autres, à part Doisneau, vraiment Doisneau est votre principal.
Oui,
maître,
c'est les premiers amours, puis je respecte toujours ça, c'est important de le cultiver. Non, après, il y a eu d'autres photographes, on va dire, américains, comme Richard Avedon, qui ont été une grande influence dans la mise en place de protocoles et le contrôle, on va dire, de l'image et de son pouvoir. Oui.
Ça vous fait quoi d'imaginer qu'aujourd'hui, il y a peut-être dans les écoles de photographie des gens dont votre travail sont une source d'inspiration et qui plus tard viendront? Quand il y aura un des prochains animateurs de Radio Campus qui diront les photos de Raphaël Dalla Porta m'ont inspiré.
Pourquoi pas, mais en fait, on est dans. C'est vraiment un moyen d'expression. Donc, au final, l'influence, c'est moteur, mais ce n'est pas la finalité non plus. Donc, oui, ce serait.
Vous aimeriez qu'ils se souviennent de quoi de vos photos?
De
vos photos, de vos installations.
Ouais. Non, de mes photos, il y a une grande part de hors-champ qui, en général, questionne beaucoup, vu que je mets beaucoup de choses de côté pour garder que l'essentiel. Donc peut-être ce qui me toucherait, c'est qu'on se rappelle de toute cette part, finalement, d'humanité qu'il y a dans ces protocoles qui paraissent distanciés. Ils sont issus de belles complicités, d'un travail vraiment collaboratif.
Donc, oui, vous travaillez beaucoup avec des gens, vous n'êtes pas du tout un photographe solitaire. Ce que j'ai lu, vous travaillez souvent avec des scientifiques en aval de vos projets. C'est important de ne pas être seul?
Oui, absolument. Enfin, je crois que je sais rien faire seul, mais c'est aussi que j'aurais pas. C'est ma source d'inspiration, c'est ces rencontres, et le milieu scientifique comme d'autres influence vraiment ma manière de voir, de concevoir et de représenter le monde. Ouais.
Ce prix Niépce, Jean Dimash, ça change quelque chose à votre vie, vous pensez?
C'est tombé la semaine dernière. Donc
c'est un peu tôt.
C'est un peu tôt, mais apparemment, c'est vraiment... en tout cas, ça fait un grand écho et oui, c'est très appréciable. Et puis, mais en même temps, on sent... limite imposteur quand on voit quand on nous en parle là depuis quelques jours quotidiennement.
Rassurez-vous, vous n'êtes pas une imposture, je vous l'assure. Merci beaucoup Raphaël Dalla Porta d'être venu. Suivez ce nom, il passera sûrement, vous verrez peut-être à Paris Photo ou à Arles, c'est pour les gens qui bougent cet été. C'est un photographe à suivre, donc Raphaël Dalla Porta, merci d'être venu. Vous venez d'écouter La Relève, c'était déjà l'épisode 14 de la saison 3. La réalisation était signée par Antonin. La présentation et la présentation étaient signées Christophe. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur le site de Radio Campus Paris. Vous retrouvez maintenant le programme musical de Radio Campus Paris. Et rendez-vous ce soir à 19h pour la matinale. Bon après-midi, bonne journée, bonne nuit, bon tout quoi.